Jazz. Le livre de Jacques Merle, compté en exclusivité sur LM7 Radio, par Jean-Luc Caturla. Ma vie en jazz, chaque vendredi, de 15h à 15h30, sur LM7 Radio.
La bataille du jazz entre ancien et moderne, raisin aigre et figue moisie, est déclenchée. Au sein du Hot Club de Bordeaux, en ce qui me concerne, cette bataille du jazz aura des répercussions sur une décision que je prendrai en 1993. En 1965, tous les jours je me rends au restaurant chez Marie, situé rue du Maréchal Joffre, à proximité de la rue d'Ornano, où j'habite. Un restaurant très bon marché, typiquement bordelais, avec son accent, sa cuisine et sa clientèle. Un soir de novembre, comme à l'accoutumée, je prends mon repas chez Marie et je remarque un client attablé qui lit la revue Jazz Hot. Ma curiosité me pousse à aller voir cette personne, sans doute un amateur de jazz. Effectivement, il s'agit bien d'un amateur de jazz et même plus. Il est photographe de la scène jazz et d'artiste de variété, activité qu'il mène de front avec son emploi. Son nom, Jean-Louis Casalis. Il est originaire de Bazas et il travaille dans une grande charcuterie bordelaise. Au fil de la conversation, nos affinités pour le jazz se confirment et comme je suis aussi très intéressé par la photo de scène, lui montrant en exemple le travail de photographe Jean-Pierre Leloir, il me propose d'être son assistant lors de prochains concerts. C'est ainsi que, lors de la revue de Jacques Brel, le 8 mars 1966, à la salle du Théâtre Français, je me retrouve dans les coulisses en ayant porté son matériel photo, objectif et pied du boîtier. Jean-Louis a quelques photos de Jacques Brel et qu'il a prises lors de précédentes prestations. J'en aurai une que Jacques Brel dédicacera. Même situation pour le concert de Johnny Hallyday à l'Olympia de Bordeaux, le 10 novembre 1966. Bien entendu, j'observe avec attention sa façon d'opérer, en espérant bien un jour acquérir un appareil photo digne de ce nom et rendre par l'image les émotions que les musiciens expriment lorsqu'ils jouent. Je serai ainsi dans son ombre sur tous les concerts de jazz que nous fréquenterons. Toujours en 1965, un festival appelé Sigma est créé par Roger Lafosse avec son association ARC, Art Recherche Contemporaine. La première édition se tient du 25 au 30 octobre 1965. Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux, est enthousiasmé par cette initiative et lui apporte un soutien financier. Un festival au caractère avant-gardiste qui suscite cependant quelques vives critiques. À chaque jour, sa thématique, théâtre, littérature, sculpture, cinéma, conférences. Sigma s'ouvre au jazz, dit expérimental, en organisant un concert de free jazz avec Albert Ayler. En 1969, Miles Davis vient y consacrer la fusion du son électrique avec le jazz. Duke Ellington est invité à cette édition pour un concert plus classique auquel j'assisterai. Duke fêtait alors ses 70 ans à la salle de l'Alhambra. Ce concert de Duke Ellington fut très critiqué du fait qu'il s'inscrivait au milieu d'une programmation du type culture contemporaine et n'avait donc pas sa place. Par contre, le pianiste Oscar Peterson donnera avec succès un concert toujours à la salle de l'Alhambra. Mais le festival est de plus en plus contesté par la présence de formations comme Soft Machine, qui évolue vers du rock, psychédélique ou du jazz rock, vers le free jazz aussi. Au fil des éditions, je prends dès lors peu à peu mes distances avec ce festival qui ne correspond pas trop à mes attentes. Malgré une présence plus importante du jazz dans les années 1970, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Thelonious Monk, Ornette Coleman, Miles Davis, Keith Jarrett, Sun Ra, en 1973 se produisent Miles Davis, Charlie Mingus, Stan Getz, Chet Baker, Gil Evans, Barney Whelan, Bernard Lebras. Dans les années 1980 seront à l'affiche Chick Corea, Gary Burton, Dexter Gordon, Michel Petrucciani, Miles Davis. Le festival amorce cependant un déclin et devant l'amoncellement de critiques sur des programmations à tendance violente et obscène, il disparaît en 1996. Durant ces années, le jazz est florissant à Bordeaux. Au magnifique théâtre français, j'assisterai au concert du légendaire groupe The Golden Gate Quartet, le 27 janvier 1967. Outre le festival Sigma, de son côté, le Hot Club de Bordeaux organise le Festival International du Jazz de Bordeaux et les fameux concerts Jazz Session présentaient le meilleur du jazz swing. Artistes de renom seront programmés. Ainsi, j'ai pu voir les 10 et 11 novembre 1968 le pianiste Earl Hines et le bluesman Muddy Waters dans la salle du Capitole, qui n'existe plus, rue Judaïque. L'organiste Jimmy Smith se produira à l'Alhambra le jeudi 21 novembre de la même année. Retour de Jimmy Smith en trio au club Le Chasqui le 25 mars 1970, une occasion de voir et ainsi de photographier de très près Jimmy Smith, toujours avec mon petit Kodak. En septembre 1969, lors de mon mariage, c'est bien évidemment notre ami Jean-Louis Casalis qui officiera comme photographe. Ma femme Nicole travaille au PTT, plus tard appelé France Télécom. Et nous habitons Bordeaux. Période transitoire avant de nous installer définitivement à Pessac, banlieue sud de Bordeaux, en 1970. Le 30 juin 1972, elle donnera naissance à notre fille, Karine. En 1973, mon père prendra sa retraite et la famille se retrouvera dans la maison familiale de Castillonnès en Lot-et-Garonne. Toutefois, ma sœur Annick et mon jeune frère Jean-Francis sont restés en région parisienne pour poursuivre leur carrière professionnelle. Mon autre frère, Michel, viendra habiter quelques années plus tard, à Léognan, près de Bordeaux. Après s'être marié, il poursuivra ses activités professionnelles au CNRS, CHU de Bordeaux. Bien entendu, le jazz est toujours d'actualité. Ma grande joie, c'est en novembre 1970 que Red Charles viendra à Bordeaux pour la deuxième fois. Mais pour moi, c'est une première. Le concert a lieu au Palais des Sports et j'ai bien entendu mon appareil photo Kodak, Retinette. Je ferai quelques photos, hélas, mon appareil est peu performant pour ce genre de clichés et pour rivaliser avec mes photographes préférés. De plus, si le concert est à la hauteur de mes attentes, le son dans cette salle est vraiment très mauvais. Mais l'essentiel est la présence de mon idole, accompagné de son grand orchestre et les Raylettes. Je monterai à Paris en 1972 pour un nouveau concert de Red Charles, mon cinquième depuis 1961.
Now, ladies and gentlemen, I want to introduce at this time some femininity. I like it myself. Therefore, I'm proud to say here are four very talented, beautiful, exciting. As a matter of fact, I must say they're internationally known. Did you hear that? I like that word international, you know. It's so big. Oh, bless their hearts. Ladies and gentlemen, if you please, my sweethearts, the Raylettes, right here.
À l'Alhambra, le 18 janvier 1977, se présentait le quintet du trompettiste Harry Ellison avec le saxophoniste Eddie Davis.
Eddie Lockjaw Davis and Harry Sweets Edison.
Thank you.
le 18 mars, le quintet du pianiste Jay McShane, Lionel Hampton, âgé de 64 ans, le 17 mai 1977, se produit dans cette salle mythique avec Frankie Dunlop à la batterie, Mitch Buckner à la orgue, Billy Meckel à la guitare, Barry Smith à la contrebasse, Eddie Chambly et Paul Mohan au saxophone et enfin William Cat Anderson à la trompette. Un orchestre déchaîné de 8 musiciens, le journaliste Philippe Darquet, que j'ai connu à d'autres occasions de concert, signe un article dans le journal Sud-Ouest le lendemain, aussi rythmé que le concert. En voici quelques extraits. Chambly balançait ferme, Scat immédiatement sur aigu, faisait place à Billy, grand seigneur des cadences. Le Milt jetait des notes d'orgue et le Hamp, comme un diable, percutait ses lamelles. Bouche ouverte, langue à l'air, Hampton rend fou et Dunlop, dans le coup, s'excite autant que lui. Le plancher ondule, les applaudissements crépitent. En effet, le public déchaîné en voulait toujours plus et Lionel Hampton n'arrêtait pas d'en rajouter aux grandes dames de mon épouse, pour qui le jazz n'était vraiment pas sa musique préférée. ans plus tard, en 1982, cette salle mythique de l'Alhambra, où sont passés tant de grands artistes, sera démolie. Une autre salle, le Femina, accueillait des concerts de jazz. Ainsi, en 1979, le 22 janvier, le batteur Panama Francis and the Savoy Sultans, toujours en 1979, un troisième comeback de Jimmy Smith en quartet. Et le 1er février 1980, toujours au théâtre Femina, un autre organiste, Richard Holmes, en duo. Autre lieu de concert, l'auditorium de FR3, Aquitaine, au programme le 29 mars 1979. Le quintet du tromboniste Al Gray. Et le 15 mai, un All Stars avec le trompettiste Doc Chisholm, Sir Charles Thompson au piano, Al Cobbs au trombone, le saxophoniste Buddy Tate et la chanteuse Carol Smith. C'est durant la période des années 60 que les festivals de jazz en France se développent, notamment celui d'Antibes Jean Lépin, créé le 7 juillet 1960 avec Jacques Souplet en collaboration avec Jacques Hébé, créateur à l'origine du festival de Nice. Celui-ci connaîtra la notoriété à partir de 1971. Près de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, le festival d'Andernos en 1968, créé par une association de passionnés au sein de laquelle se trouve le clarinettiste Christian Morin, Guy Perruccio, patron du bar-restaurant Le Neptune, Roger Maublanc, Dominique Fasset et le pianiste Jean Arnetout, docteur jazz, bien connu du Hot Club de Bordeaux. Il programme cette année Milt Buckner, Claude Bolling, Claude Luther et le quartet de Christian Morin. Au fil des éditions, le festival grandit, accueillant de plus en plus de public, du fait d'une programmation de jazzmen de légende, comme Cab Calloway, Stéphane Grappelli, la chanteuse Carol Smith, qui rendra un hommage à Mahalia Jackson en faisant un récital de gospel. Lors de la venue de Lionel Hampton, il y avait le grand saxophoniste Arnett Cobb qui, suite à un accident de voiture en 1956, était contraint de jouer avec des béquilles. C'est la seule fois où j'ai eu l'occasion de voir Arnett Cobb, malheureusement le festival étant déficitaire et l'association ne pouvant pas subvenir aux difficultés, il est repris par la mairie en 1984. Entre-temps, en 1976, Red Charles sera en concert en plein air à Arcachon, toujours avec la même formation du grand orchestre, et je commence à compter les concerts auxquels j'assiste, mon sixième. Le jazz commence à s'exporter dans nos campagnes. Dans le Gers, à Marciac, où celui qui deviendra le plus grand des festivals en Europe prend naissance en 1977. Et c'est encore dans le Gers à Condon, à l'occasion de la fête de la Boucherie, que le 19 juillet 1978 aura lieu le concert de Red Charles. Concert où mon frère Jean-Francis et ma mère assistent et j'ai mon appareil photo Kodak Retinet et aussi une caméra Super 8, ainsi muni pour des souvenirs inaltérables.
Thank you.
C'était Ma vie en jazz par Jean-Luc Caturla. Chaque vendredi de 15h à 15h30 sur LM7 Radio, Ma vie en jazz.